France Culture.
Ok. Et c'est parti ?
Ouais.
On a quoi comme information ?
Alors, tiens, ici.
On est en retard ?
Bonjour !
Oui, bonjour, William, c'est Marie de la radio.
France Culture.
Vous m'entendez ?
Allô ?
Ouais.
Ouais, vous m'entendez ?
Oui, et vous m'entendez ? C'est Marie de la radio. Ouais.
Je vous ouvre.
Super. Ok, super, merci.
Merci.
Le Book Club.
On a fait une carte de flouche.
Sur une infusion, quelque chose. C'est du sobatcha, c'est du.
Ah oui.
Ouais, c'est pas mal.
Dans la bibliothèque de William Lebgill.
En venant, je me suis dit très beau Paris, quoi.
Il y a le Père Lachaise là-bas, non ? On voit l'Est, quoi. Beaucoup plus loin, il y a le Japon.
Attendez. Il y a un truc Japon dans cette petite plane au-dessus de cette bibliothèque, non ? Quand même. On est d'accord ?
J'adore le Japon. Ouais, il y avait quelques indices.
Ouais, voilà.
J'avais fait un voyage au Japon avec des amis. On était dans une ville qui s'appelait Nara, il faisait 50 degrés et on se faisait racketter par des daims.
Ouais.
Ah, des câlins, vraiment ils nous racketaient quoi. On achetait des petits biscuits et puis ils venaient et ils nous racketaient.
Marie Richeux.
Nous proposons deux choses à nos invités dans ces portraits de bibliothèque. D'abord, de visiter la leur, manière de parler de leur rapport à la lecture en général et de voir, petite pile de livres ou bibliothèques imposantes, ce qu'elles peuvent nous raconter de nos hôtes en creux. Et puis, nous leur demandons de choisir cinq livres étapes dont nous leur laissons entière liberté d'interpréter ce que ça veut dire pour eux. In extremis, William Lebgill avait rajouté un haïku la veille de notre rendez-vous à sa sélection de textes qui comptait déjà deux occurrences liée au Japon. Voilà que le Japon insiste, m'étais-je dit en terminant la préparation de cet épisode. L'intuition allait se vérifier en arrivant chez le comédien qui entreprit de nous préparer un sobatcha, cette infusion délicieuse de sarrasin grillé qui se déguste aussi bien chaude en hiver que glacée en été. Au-delà de ça, on sent se dessiner dans les choix de textes du comédien quelque chose d'une grande recherche de sens, une attention portée au chemin, celui de vivre ou d'aller à la plage, ce qui, dans un cas comme dans l'autre, n'est pas une petite chose. Son chemin à lui, parti d'une passion de jeunesse pour le théâtre, puis d'un immense succès de jeunesse aussi via le sitcom télévisé Soda, se tourne rapidement vers un cinéma plutôt qualifié d'auteur qu'il a vu à l'affiche de films ou de séries comme Les Combattants, Le Beau Rôle, Hippocrate, Jackie au Royaume des Filles, Grand Paris ou tout récemment, Baise en Ville. À chaque fois dans une grande finesse d'interprétation, drôle, touchant, intelligent, délicat. L'eau bout, la Bibli est collée au mur dans le couloir étroit. Suivons William Lebgill sur le chemin.
J'arrive, hein. Je suis un peu long, excusez-moi. Hop.
Il y a quelque chose à savoir de plus que de l'eau bouillante, non ?
Non, c'est de l'eau bouillante et puis le sarrasin, quoi. Ouais, c'est super.
Oh là là, c'est super chic.
Mais
merci.
Oui,
c'est tout ? J'ai besoin.
Ouais, c'est bon. Il y a tout. Mais l'essentiel de la bibliothèque est ici, en fait. Elle est dans le couloir.
On va commencer par ça, du coup.
Oui, le parquet grince. Voilà, du coup, c'est un couloir et puis c'est un peu... il est exigu, du coup, on est très proche des livres quand on les regarde.
La bibliothèque. Bah, c'est marrant. Qu'est-ce qu'on peut dire, alors, William Lebgill, de cette bibliothèque ?
Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Eh ben, elle était là quand j'ai emménagé, elle était déjà présente. Et elle m'a fait de l'œil quand même. Je pense qu'elle a joué quand même dans le choix.
De l'appart ?
Un peu.
Ah ouais ?
Ouais. Je sais pas, je trouvais ça hyper beau, ce couloir rempli de livres. Donc voilà, et qu'est-ce qu'on peut en dire ? Elle est pas vraiment classée. Ce qui me permet quand je cherche un livre d'avoir peut-être la chance de...
En trouver un autre.
D'en trouver un autre, exactement.
Elle est pas classée, mais il y a une mini-logique où vraiment c'est random total.
Alors oui, je dirais que sur la gauche de la bibliothèque, il y a plus ce qui concerne le théâtre quand même, Shakespeare et tout. Et puis, plus on va vers l'Est, plus on va vers les romans, quoi.
Avec beaucoup de livres de poche.
Tout à fait. Des romans, et puis alors, il y a un autre endroit bibliothèque qui est juste là. Qui est un meuble que j'ai construit moi-même avec deux amis.
On peut le décrire ?
Oui, alors c'est un meuble, assez fin, un meuble bas.
Ouais. Une console, on dit ça, non ? C'est une console ?
Ouais, ça pourrait être une console, ouais, exactement. Et elle est entièrement de carrelage blanc.
Et la base, c'est du bois ?
Et la base, ouais, c'est du bois. Et en fait, après, j'ai collé Enfin, vous voyez, c'est des plaques de...
Des filets, quoi, c'est ça?
Ouais, je les ai pas mis un par un.
Je personne ne met ça un par un, non?
Bah, des puristes, hein, peut-être.
Ah, ouais.
Ah bah ouais, j'imagine que...
Et alors, il y a quoi dans ce meuble-là, particulièrement?
Alors, il y a des livres plus volumineux, hein. Il y a des livres de recettes aussi, pas mal.
Il
y a quelques livres d'art. Puis il y a aussi des collections de DVD. Oui. Ozu, Herzog, que j'aime beaucoup, Werner Herzog. Riyad Satouf, bien sûr. Et puis c'est à peu près tout. Il y a des haltères, des petites haltères.
Je les vois pas, elles sont là.
Voilà.
Ça, c'est quoi? C'est deux, ça, non?
C'est un kilo.
Ah, c'est un?
Ouais. Pas mal, pour faire de l'exercice.
Je pourrais presque faire un peu des exercices de bras pendant le tournage, mais bon. Cuisine japonaise.
Ouais, alors celui-là, il est hyper beau.
Ça, c'est un livre sur le Japon ou sur la cuisine?
Sur la cuisine japonaise.
Ouais, ouais, il est trop beau.
Il est magnifique. Hein.
Et vous suivez des recettes? Enfin, vous aimez ces livres-là parce que vous cuisinez volontiers?
Ouais, j'adore cuisiner. J'adore ça. C'est vraiment un truc de...
Vous êtes dans l'équipe, on suit des recettes. Pas j'improvise.
Je peux improviser, mais j'aime bien quand même suivre des recettes.
Ouais. Ouais.
Moi, j'aime bien.
Whisky ouais. Du monde, le vin sans complexe, le petit Larousse de la cuisine débutante. C'est quand même un vrai... Il y a un vrai département cuisine, quand même.
Ouais, cuisine, la cuisine japonaise. Il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle... Les recettes populaires et bourgeoises françaises de piège, oui, c'est ça.
Il est beau. Vous allez tout faire tomber si vous l'enlevez, non?
Oui. Ah oui, et puis il y a des biographies aussi, il y a d'acteurs, Meryl Streep.
Il est trop beau, il est énorme.
Ouais, il est énorme.
Il y a un coq.
Et franchement, elles sont pas difficiles à suivre, parce que il y a le croque-monsieur, il y a un peu des petits fondamentaux, des trucs simples, quoi. Après, il y a des trucs beaucoup plus
avec
compliqués.
Avec H comme Omar, quoi, des trucs simples.
Oui, c'est vrai que là, on est tombé sur
dit
la page.
Comme Dorade.
Mais oui, melon.
C'est trop, vous m'avez perdu.
Voilà, melon de Cavaillon frappé au Porto, okay. Bam, c'est pas compliqué. Ouais. Il y a la recette du beurre blanc aussi, qui est très simple, qui accompagne très bien les poissons.
Et il y avait des livres de cuisine chez vous? Je vais le remettre ou je vais
non,
vous
non, franchement, non.
Il vaut mieux le mettre dans l'autre sens, non?
Ah oui.
Comme ça, vous voyez
ouais,
ce que c'est.
Bien joué. Bah, merci.
Il n'y avait pas de livres de cuisine chez vous?
Non.
Et il y avait des livres tout court?
Très peu.
Surtout
très, très
dans
peu.
L'endroit où vous avez grandi, quoi.
Oui, oui, oui. Très peu, ouais. Vraiment okay. Très peu. Ma mère lisait un peu des romans de gare, quoi. Genre Agatha Christie. Enfin, c'est pas... Plus ou moins, quoi. Ma grand-mère lisait un peu aussi. Mais sinon, personne lisait.
Et vous?
Mais moi, je lisais pas trop non plus.
Ok.
Non, parce qu'il y avait la télé, il y avait...
Ouais,
la télé, ça nous a happé, quoi.
Que ça, hein. Je te fais pas trop le dire.
Et puis, voilà, grandi dans le fin fond du 77, donc une famille modeste. Enfin, en fait, mes grands-parents, c'était plutôt classe populaire et tout ça.
77 aussi?
Ouais. Mes grands-parents, du côté de mon père, ils ont immigré d'Algérie.
D'où en Algérie?
Du sud, de la frontière du désert, ça s'appelle Biskra. Et puis après, moi, mes parents, c'était plutôt classe moyenne, quoi. Enfin, vous voyez, c'est des maisons un peu quartier résidentiel où les maisons, elles sont un peu toutes les mêmes. Mm-hmm. C'est vraiment genre banlieue dortoir, quoi. Mais c'était cool. Mais c'est vrai qu'on lisait pas des masses.
Oui, parce qu'il y a des bibliothèques parfois dans les banlieues dortoirs.
Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr, il y a des bibliothèques municipales. Mais même, j'avais des amis
qui lisaient,
ou les parents lisaient vachement...
Et quand est-ce que vous avez aimé ça? Parce que quand on est rentré dans cette maison, il y avait plein de livres.
Oui.
Ça ouais. Ressemble à quelqu'un qui aime bien ça maintenant.
J'aime bien ça, mais c'est vrai qu'il y a des moments, j'y pense pas du tout et j'arrête de le faire.
Ok.
Ouais, je passe vraiment des vagues.
Des semaines.
Mais non, mais ça peut même être des mois, hein, vraiment même.
Mais vous lisez la presse?
Pas trop. Je lis pas la presse. Non, je lis des scénarios.
Quand même. Ouais. Ça c'est constant, pareil.
C'est assez constant, ouais, quand même. Mais c'est pas du tout la même chose, quoi.
Okay.
Enfin, c'est vraiment un scénario, ça n'a rien à voir...
Vous en avez un? Vous pouvez peut-être pas nous montrer.
Ouais, si, j'en ai. Là, bah, ça, c'est le dernier que j'ai tourné, voilà. Le joueur de Elie Wajman.
On vous envoie ça, quoi.
Ouais.
Métro, ligne 6, hop. Les deux amis entrent dans une rame vide de la ligne 6. C'est le premier métro, visage fatigué. Ils comptent leur argent, le métro devient aérien, le ciel est pourpre. Les premiers rayons du soleil apparaissent. Alors heureux, ok. Et vous, vous êtes qui?
Eh ben là, je fais Lionel. Vous avez pris une page où je fais Lionel. Voilà. Qui est un addict au jeu, qui traîne dans les casinos, dans les parties de poker clandestines en proche banlieue.
Et vous aimez bien lire ça? Les scénarios? Ah ben,
franchement, quand c'est bien, c'est excellent, ouais.
Ouais.
Ouais, ouais, j'adore. Ouais. Mais bon, c'est vrai que c'est pas la même chose que Jung, par exemple. Ou que, je sais pas, ouais, un roman.
Et d'ailleurs, peut-être on refait un petit tour vite fait dans la... Parce qu'on a dit rien de ce qu'il y avait dans le... On a donné aucun...
Dans la bibliothèque ?
Oui.
Non, on a rien dit, on a été très discret.
Oui, donc quand même...
On a été timide, même.
On a été... Enfin, c'est vous, surtout, parce que... Ouais.
Bien joué.
C'est peut-être parce que c'est la config. Comme on n'ose pas, on est trop près.
Oui, c'est vrai qu'on est très très près.
Alors on a dit des zones, ok.
Ouais, on a dit des zones, donc là voilà.
Théâtre.
Le théâtre, Brecht, Feydeau.
Ça correspond au moment où vous étudiez le théâtre, par exemple?
Ouais, où j'étais à l'école de théâtre. Et j'ai découvert Feydeau et je trouvais ça génial. Je trouve ça trop marrant. Et en fait, surtout, c'était du coup des lectures où, vu que j'aimais pas trop ça, en fait.
Lire?
Ouais. D'un coup, en lisant, je pouvais me dire que j'allais jouer
les
personnages qui sont à l'intérieur du livre.
Pareil, je me disais, ouais, génial. Scénario, d'ailleurs, finalement.
Ouais, exactement.
Projection immédiate dans le jeu.
Ouais. Du coup, ça avait un aspect très ludique et du coup, j'en ai lu énormément, quoi. Tchekhov, Shakespeare aussi.
Mouillé.
Puis des plus récents comme Howard Barker ou Bond, Joël Pomera aussi, je trouve ça génial.
Parce que c'est quand même votre premier amour dans le rapport au jeu, le théâtre.
Ah ouais,
parce qu'on vous connaît beaucoup pour le cinéma et puis certains vous ont rencontré par, comment on dit, un sitcom, une série.
Ouais, tout à fait.
Mais la base, c'est le théâtre quand même.
Mm-mm.
Que tout commence.
Ouais, grave.
Donc là, on quitte le théâtre.
Et puis là, il y a des romans. Après, j'ai pas tout lu. Hein. Je dois. Par exemple, il y a Chateaubriand.
Il y en a plein. Bim, d'un coup quatre.
D'un coup, il y en a quatre. C'est les Mémoires d'Outre-Tombe. Donc, c'est en quatre volumes. Et je me souviens, je voyageais. Je m'étais dit, je vais me, parce que j'avais un ami qui m'avait fortement conseillé de le lire. Et je me suis dit, allez, vas-y, je pars sur les Mémoires d'Outre-Tombe et tout. Et je sais pas, je lis genre 300 pages. Et à un moment donné, il y a marqué dans le livre, bon bah voilà, vous avez eu le résumé de ce que je vais vous raconter. Maintenant, c'est parti pour les Mémoires d'Outre-Tombe. Et j'ai fait, attendez les gars. Ouais. J'avoue, j'ai un peu lâché, j'ai un peu rage quit, comme on dit.
Ça veut dire quoi, rage quit?
C'est en jeu vidéo, c'est quand on perd et qu'on...
On jette la manette.
J'ai jeté la manette.
J'adore ce nouveau... Donc ça, c'est une confirmation de la petite passion japonaise.
Tout à fait, c'est Totoro.
Totoro, il est tellement mignon.
Et ça, c'est Petite Noiraude.
Pourtant, moi, j'aime pas ces objets-là, je dois vous le dire. Je comprends pas ce projet. Vraiment, je comprends pas. Limite, ça peut me faire rage quit, quoi. Mais là, je l'adore.
C'est hyper marrant que vous partiez dans le couloir.
Alors,
ça dégage.
Ok, donc on continue. J'avance un peu, non?
Oui, allez-y.
Oui, voilà.
Qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a aussi pas mal d'essais sur le théâtre. Genre L'acteur et la cible des Clans d'O'Neillan. Ou de Lee Strasberg.
Que vous avez lu quand vous avez commencé à apprendre?
Ouais. Là, le travail à l'acteur studio, machin. Puis il y a la formation de l'acteur de Stanislavski. Ça, je me souviens, je l'avais lu, ça m'avait foutu énormément le seum.
Parce
qu'en fait, en gros, le personnage principal, il arrive dans une école de théâtre. Et en fait, à la fin de sa première année de cours, on a vraiment l'impression qu'il devient un génie du jeu d'acteur, quoi. Et je trouvais ça un peu malhonnête. Enfin, où je me disais, mais c'est inatteignable, quoi.
Alors que c'est long de devenir un bon acteur, probablement.
Je trouve, ouais, c'est un long chemin.
Ici, il y a à la fois un livre de Pontalis sur le vocabulaire de la psychanalyse, et en même temps... Ah, quand même! J'allais complètement passer à autre chose, mais juste à côté, il y a Sigmund Freud et l'interprétation des rêves.
Mmh. Effectivement, et puis il y a la pâtisserie traditionnelle juste à côté.
Mais ça veut dire, enfin, peut-être que c'est un hasard total que mes yeux se posent là-dessus.
Bah peut-être, mais après il y en a pas mal, je crois. Ça m'intéresse beaucoup, la psychanalyse. Là, par exemple, il y a pas mal de biographies d'acteurs aussi.
Qui sont dans une petite collection que je connais. Ah si, ben, ouais. C'est Capricci.
Patrick Devers, Takeshi Kitano, Romy Schneider, Nicolas Cage, Bill Murray, Bruce Lee.
Est-ce que quand on est acteur, on s'intéresse à ce que c'est qu'être un acteur? Je veux dire aussi au sens, aux vies des acteurs, par exemple. Ouais. On se dit, ah, c'est quoi, c'est quoi les gens qui ont cette vie-là?
Bah ouais.
Ah ouais?
Ouais, c'est hyper instructif, puis ça détend quand même. Non, parce qu'on se rend compte quand même que c'est une galère un peu pour tout le monde. Je me souviens d'une interview où j'écoutais, c'était Charlotte Rampling qui racontait un peu sa vie d'actrice, quoi. Et en fait, elle disait que, genre, elle avait passé, je sais pas, elle avait eu une traversée du désert de 10 ans, quoi.
Sans jouer.
Sans jouer. Et là, elle est dans Dune. Donc, je sais pas, il y a un truc où, quand on voit... Puis, ouais, on voit à quel point c'est un... Enfin, c'est rassurant, ouais, je sais pas.
Parce que ça veut dire qu'on est obligé, cette vie-là, on est obligé de faire avec des pleins, des creux. Il faut quand même avoir une autre vie, non? Il faut, par exemple, elle peint, Charlotte Rampling... Enfin, c'est-à-dire que si tu n'aimes rien de faire d'autre dans la vie que ça...
C'est très compliqué.
C'est très compliqué.
Bah, ça oblige à aimer faire d'autres choses, quoi. Par exemple, moi aussi, je me suis mis à la peinture, à l'huile, à un moment, où je travaillais pas trop. J'avais appelé ça des huiles, parce que c'était... Moi, parce que je m'appelle Will et que c'était de la peinture à l'huile.
Je pense que la peinture à l'huile, c'est... Oh, c'est pas sympa.
Et non, c'est super. Et par exemple, la cuisine aussi, c'est quelque chose qui vient aussi dans les périodes. En fait, c'est un métier quand même qui apprend, je crois, à appréhender la retraite. En fait, c'est un peu comme si on était à la retraite.
De temps en temps.
On nous disait, écoute, là, tu nous sers à rien. La société n'a pas besoin de toi, tchao.
Mais surtout que quand ce n'est pas ça, c'est très intense. Enfin, on se figure comme quelque chose de très intense, très valorisant pour soi-même, etc. Et donc, on passe de ça à « fais de la cuisine, tranquille. Ouais. Et sois en paix avec toi-même.
Ouais. » Faut... ça mouline, hein. Faut y aller. Faut être armé. Qu'avons-nous d'autre?
Si on fait très fort la tête comme ça, ce que je déteste faire, mais il y a des bandes dessinées tout là-haut.
Ouais, il y a Moebius, que j'aime beaucoup. C'est Riyad Satouf qui m'a fait découvrir. Ouais, mais c'est hyper marrant parce que du coup j'ai écouté l'épisode sur avec Riyad. Oui, voilà, exactement, ouais. Exactement. Et j'avais choisi un extrait qu'il a choisi.
Ouais.
Et je me suis dit, waouh.
C'est mon gars.
Ouais. Et je suis son gars également. Yami Miyazaki aussi. C'est des livres sur comment il construit ses films.
Et Tintin.
Mais ouais, la BD, moi j'aimais bien ça. J'aimais beaucoup ça. En fait, j'ai quand même découvert la lecture aussi quand même vachement avec les BD qu'on avait quand on faisait un plein d'essence chez Elf.
Ah oui, je me souviens. Ouais. Avec des bons un peu, non? C'est
exactement.
Ça ouais, je me souviens de ça.
Il y avait, je me souviens, j'avais découvert Achille Talon comme
ouais,
ça.
Ouais, ouais, mais c'était ce genre de BD d'ailleurs.
Ouais. Mm. Et j'adorais Achille Talon, ouais. Ça me faisait trop marrer.
Ça, c'est un piano à doigts.
Oui, exactement.
Il est très beau, hein, franchement. Beau, hein. Ah ouais, il est hyper... Franchement, il est particulièrement beau.
J'ai pas encore appris à en jouer, mais le son est super.
Je peux vous faire un petit jingle de...
Mais non.
Mais pas du tout. En fait, tu peux faire le mytho en 2 secondes avec ça. Mm-hmm. Parce que, évidemment, je joue pas du tout, comme vous pouvez voir. Je peux faire la transition vers la prochaine étape de cette bibliothèque.
Vous êtes sur France Culture. C'est l'été.
Je suis sûre que c'est un vrai jingle en plus. C'est pas complètement résolu comme dans le jazz.
Pas mal.
Allez, on va lire des extraits ?
Allez, si vous voulez. Est-ce qu'on doit être un petit...
Oba-san, Tachito. stand. I know I yet to mess no day. Oh, my son. Let it go. Yes, and they take good aside. Oh, ho, ho. She's can you. Oh, ho, ho.
Culture, le Book Club, dans la bibliothèque de William Lemgill, Marie Richeux.
Est-ce que vous avez envie de suivre un ordre en particulier?
Non, pas forcément, ce qui vous...
Eh ben, comme ça, ouais. Il y avait Yoshi Ohida.
Yoshi Ohida, ouais, c'est un acteur qui faisait partie de la compagnie de Peter Brook. Un japonais.
Ça fait partie des textes sur le théâtre et sur le jeu dont on parlait tout à l'heure près de votre bibliothèque.
Oui, en fait, il parle vachement de la question qui est un peu une question existentielle que tout le monde se pose et qui est universelle. Enfin bref, qui suis-je en fait, tout simplement. Et c'est une question qui est encore plus titillante, je crois, quand même, quand on est acteur. Et je sais pas, il m'a donné plein de réponses, ou en tout cas de questions que je trouvais vraiment chouettes, quoi.
Mais par exemple, elle est plus titillante parce que, comme on interprète d'autres personnes, ça démultiplie ou ça épaissit encore la question, ou ça la rend plus floue, ou ça la rend plus bordélique.
Ça la rend plus centrale, en fait, je crois. Ah. Ouais, il y a un côté... C'est pour ça aussi que la psychanalyse, en tout cas que je me suis dirigé vers ça aussi, c'est parce qu'il y a une question de se comprendre aussi soi, de savoir se regarder, de comprendre un peu le fonctionnement de notre psychisme, etc. Se comprendre pour essayer déjà de comprendre les autres, quoi, et des personnages qu'on va aborder, quoi.
Pas pour avoir une sorte de colonne vertébrale solide pour pouvoir faire interpréter des choses très différentes.
Bah, c'est une des... Oui, c'est une bonne... c'est un bon résumé aussi. Ouais. Okay.
On peut rajouter qu'il est né en 1933, que c'est donc désormais un vieil homme.
Oui, fait. Un vieil homme japonais.
Un vieil homme japonais, ouais. Parce que vous êtes peut-être un vieil homme japonais en secret. Et c'est un livre qui est fait en collaboration avec Lorna Marshall. Et ça s'appelle L'acteur rusé.
Ça s'appelle L'acteur rusé, en fait, c'est trois bouquins. Il y a L'acteur flottant, L'acteur invisible et L'acteur rusé, c'est le dernier.
Voilà. On vous écoute ?
Ouais, avec plaisir. Il y a 500 ans, vivait au Japon un grand maître zen du nom d'Ikkyū. Il se rendit un jour au théâtre de marionnettes. Au cours du spectacle, il remarqua que le mouvement des marionnettes était très intéressant et amusant, et que le manipulateur maniait une grande variété de personnages. Un dieu, un samouraï, une petite dame modeste. Le manipulateur faisait tellement bien son travail que ses marionnettes semblaient vivantes. Et le public acceptait que les histoires racontées soient celles de véritables êtres humains. Lorsque la marionnette faisait quelque chose de drôle, le public riait. Lorsqu'elle se mettait en colère, le public ressentait sa fureur. Et lorsqu'elle devenait triste, elle pleurait. Le public pleurait avec elle. Ikkyū demanda « Qui sont ces créatures ?» Il découvrit qu'elles étaient faites d'un bois tout à fait ordinaire. Puis il dit qu'il en allait de même de nos vies. Les créatures qui évoluent sur scène semblent être un véritable être vivant, mais elle ne doit cette apparence de vie qu'à l'existence d'un manipulateur qui est derrière elle. Il expliquait que notre existence a deux facettes, la vie physique, celle que l'on peut voir, et une seconde existence qui vit plus profondément en chacun d'entre nous et qui, elle, est invisible. Si l'on ne fait attention qu'à l'existence visible, physique, on commence à croire que c'est la raison de notre existence. La vie sociale devient le principal et on s'attache de plus en plus aux détails du monde physique. Cette focalisation est une illusion. Mais de la même façon, si l'on ne s'intéresse qu'à la vie invisible, il est impossible de fonctionner en société, ce qui restreint la vie. IQ disait que l'équilibre doit être maintenu entre ces deux extrêmes. Voilà.
Pourquoi vous l'aimez beaucoup, ce texte ?
Pourquoi je l'aime beaucoup ? Bah parce que, justement, c'est la fin, c'est de se dire quand même que... Enfin, en fait, moi, simplement, j'ai pu avoir tendance à me... Comment dire ? À me concentrer vachement sur ma vie intérieure et à, parfois, à passer à côté de la vie sociale. Exactement. Et je sais pas, je trouve ça beau. Et puis je trouve ça beau, ces petites marionnettes qui sont manipulées, qui... On a un peu cette chose-là, j'imagine, quand on est acteur, c'est d'être le propre marionnettiste de soi-même, quoi. Et ça, je sais pas, ça m'intéresse.
Et aussi, il semble émerveillé que de petites marionnettes de bois, on puisse faire mettre des émotions.
Ouais.
Et je me dis ça, que ce soit au théâtre ou au cinéma... C'est étonnant, vous faites pour de faux et nous on est en face et on ressent pour de vrai. C'est marrant comme expérience, non?
Ouais, c'est... c'est génial, franchement. Moi j'adore.
C'est vrai?
Ouais.
Ça continue de vous passionner, ça?
Ouais. C'est... Mais je pense en plus c'est vraiment sans fin, quoi. Ouais. C'est vraiment, il y a un truc. C'est...
De penser, c'est ça, de chercher le jeu, de chercher.
Ouais, et puis de voir que, en fait, il y a plein de moments où on se dit « Ah, ça y est, j'ai trouvé ». Et puis, en fait, non. Enfin, au moment où on se dit qu'on a trouvé, il y a d'autres questions qui arrivent.
Trouver
d'autres
quoi?
La façon dont il faut jouer. Et en fait, à chaque fois que je démarre un film, en général, j'ai l'impression de plus rien savoir faire du tout. Donc, il faut que je me prépare quand même vachement. Et puis il y a des moments, sur le plateau ou au théâtre aussi sur le plateau où on se dit ah c'est, là je sais, je maîtrise mon art, je sais comment faire et tout machin. Et puis une représentation, une prise ratée, tout s'effondre. Et donc il faut repenser la chose. C'est un état de questionnement un peu perpétuel et salvateur, je trouve.
Et comment vous vous préparez ?
Je travaille avec un coach.
Okay.
On lit énormément le scénario et ça se base un peu sur le pourquoi, en gros. Pourquoi le personnage dit ça, pourquoi il fait ça à ce moment, pourquoi il fait pas autre chose. Et d'un coup, on crée plein de raisons qui sont un peu... Enfin, il y a un côté un peu psychanalyste du personnage, quoi.
Toujours souterraine, quoi. Vous arrivez au plateau et vous avez une sorte de petit sous-sol de votre personnage.
Ouais, exactement. Et en fait, c'est trop agréable. Ça devient même un peu un luxe, quoi, parce que l'important ensuite, pendant le tournage, en tout cas pour moi, c'est d'être ultra disponible à ce qui se passe, d'être très attentif à chaque chose, à chaque... Et en fait, du coup, ça permet, oui, d'être plus stable, je pense.
On va vers votre deuxième choix ?
Oui, avec grand plaisir.
Qui s'appelle Hermann S. Siddhartha. Parution originale en 1922, traduction française de Joseph Delage en 1925.
En fait, il y a beaucoup de livres que j'ai découverts soit par des amis ou par des amours. L'amour et l'amitié, c'est quand même des sentiments qui me donnent envie de lire. Enfin, surtout quand la personne m'offre un livre.
C'est ça.
J'ai l'impression d'un coup de converser avec la personne et ça me... Je sais pas, je peux dévorer un livre...
Par amour ou par amitié.
Ouais. Et dans des temps records, alors ça c'est quand même vachement bien, quoi. Et oui, du coup, donc c'est un ami, un de mes meilleurs amis, qui m'avait offert Demian, donc, qui est un autre livre de Hermann Hesse. Et j'ai tellement aimé que, du coup, j'en ai lu d'autres. Et Siddhartha, ça m'a vraiment, ça m'a bouleversé en fait. Ça a éclairé des zones d'ombre, des questionnements, des
ma vision de la vie aussi.
Mais elle est... on dirait qu'il y a une couverture particulière, non ?
Ouais, celui-là, je l'ai trouvé dans une brocante, en fait. Et,
il est beau ?
Ouais, il est hyper beau.
Mais surtout, il a une espèce de couverture arlequin, comme ça, et des...
Ouais, avec des hiéroglyphes, enfin, un peu des...
Très
ouais.
beau. Vous avez choisi un passage.
En gros, c'est un brahman, donc il vient de... en Inde, c'est une caste plutôt de profs et de religieux, quoi. Donc c'est des castes plutôt haut placées, quoi. Et il est destiné, voilà, à ça, quoi, à poursuivre dans cette caste. Et en fait, il s'embrouille avec son père et il part suivre des ascètes dans la forêt pour méditer et jeûner. Et voilà. Le livre parcourt toute sa vie. Et c'est une vie riche, spirituelle et... C'est vachement beau. Quand j'étais petit garçon, je ne m'occupais que des dieux et des sacrifices. Jeune homme, je ne songeais qu'aux exercices spirituels, à la réflexion et aux méditations. Je cherchais Brahma et je vénérais l'Éternel dans Atman. Un peu plus tard, je me joignis aux moines pénitents, vivant dans la forêt, souffrant de la chaleur et du froid, j'appris à jeûner et à tuer lentement mon corps. Ensuite, ce fut la connaissance qui se manifesta en moi d'une façon si miraculeuse par la doctrine du grand Bouddha et la science de l'unité du monde que je m'assimilais au point de l'identifier avec moi-même. Mais j'ai dû aussi m'éloigner de cette science, comme je me suis éloigné de Bouddha. Je rencontrai Kamala qui m'enseigna les plaisirs de l'amour. J'appris chez Kamaswami à faire du négoce. Je gagnais de l'argent, je le gaspillais, j'appris à faire bonne chère et à flatter mes sens. J'employais des années à me gâter l'esprit, à désapprendre l'art de penser, à oublier l'unité. Ne dirait-on pas que peu à peu, et par un long détour, je me suis évertué à faire de l'homme que j'étais, du penseur, un enfant ? Et pourtant, ce détour doit avoir du bon, puisque l'oiseau qui chantait autrefois dans ma poitrine n'est pas mort. Mais quel chemin j'ai suivi quand je pense qu'il m'a fallu passer par tant de sottises, par tant de vices, d'erreurs, de dégoûts, de désillusions et de misères pour en arriver à n'être plus qu'un enfant et à tout recommencer. Mais c'était pour mon bien. Mon cœur me le dit. Et la joie qui est dans mes yeux me le dit aussi. Il m'a fallu vivre dans le désespoir, m'avilir jusqu'à la plus lâche des pensées, celle du suicide, pour obtenir mon pardon. Entendre de nouveau Om, goûter le vrai sommeil et le véritable réveil. Il m'a fallu passer par la folie pour arriver jusqu'à Atman. Il m'a fallu succomber au péché pour renaître à la vie. Où la route que je suis me conduira-t-elle ? N'est-elle pas absurde cette route ? Ne mène-t-elle pas en courbe, peut-être même en cercle ? Qu'elle soit comme elle voudra, je la suivrai. C'est joli, non ?
Vous, c'est une recherche qui est au-delà de ce qu'on dit du rapport au jeu et tout ça, mais qui vous est chère, l'idée d'une spiritualité ou d'un chemin ou quelque chose de cet ordre-là ?
Ouais, quand même. Ouais, l'idée de... quand même de ce mystère que la vie, quand même, c'est vachement mystérieux, quand même, cette histoire, quoi. Personne n'a demandé à venir au monde et puis on est là. C'est quand même dingue, quoi. C'est magnifique, à la fois. Et à la fois, c'est... waouh, c'est... oh, c'est incroyable, quand même. C'est... en fait, de se rendre compte de ça, quand même, c'est...
Mais pour vous, c'est vertigineux côté, vertigineux, waouh, très très flippant, j'arrive pas à dormir, ou vertigineux côté, j'accueille le mystère et c'est beau et ça me rend encore plus vivant et joyeux.
Ouais, c'est ça. En fait, quand c'est je ça. Pense à ça, c'est vraiment ça. Quand je suis anxieux, par exemple, c'est que je m'attache vraiment à des questions qui sont beaucoup trop, comme dans l'extrait de l'acteur rusé de Yoshioida, c'est que peut-être je suis trop, justement, dans le monde visible, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais oui, en fait, c'est simplement de tâter son corps, de goûter un plat, d'entendre une musique, enfin, je sais pas, c'est d'être ému, de... Quelle expérience incroyable, quand même.
Mais ça, vous avez l'impression que... Parce que dans Siddhartha, par exemple, de Hesse, il y a l'idée d'une initiation, et il y a surtout l'idée d'avoir traversé beaucoup d'illusions, de désillusions, de péchés, etc., pour revenir à quelque chose qu'il appelle l'enfant ou l'enfance. Mais la possibilité de s'émerveiller de l'existence, c'est chez vous, quoi. Enfin, je veux dire, c'est là. Personne ne vous a initié. Votre rapport au monde, il est fait de ça.
Oui, après, il y a peut-être des choses dans l'enfance qui font que je m'en suis rendu compte. Mais non, mais parfois, je l'oublie. Parfois, je l'oublie que l'existence, c'est merveilleux. Et parfois, je sais pas comment dire. Une fois, j'étais sur une île et puis j'étais avec ma belle-fille. À ce moment-là, elle avait, je sais pas, 4 ans, quoi. Et je lui dis, tu veux qu'on aille à la plage? Et elle me dit « Ah ouais, génial, on va à la plage !» Donc je fais « Hop, alors hop, je réunis le seau, la pelle, machin et tout. » Et on se met en direction de la plage. Mais moi, dans ma tête, je me dis « Je dois aller à la plage. » Donc je vais à la plage, on va à la plage. Et elle s'appelle Frida. Frida était derrière et puis elle traînait un peu des pieds, tout machin. Et j'étais là et je m'énervais, je m'agaçais. Je disais « Allez Frida, on va à la plage, dépêche-toi, on va... » À un moment donné, je me suis dit, mais attends, pourquoi je...
Elle kiffe.
Pourquoi je fais ça, là? Et je me suis dit, je vais, plutôt que de vouloir absolument aller à la plage, je vais prendre aussi son rythme. Et en fait, j'ai vu que, simplement, elle s'émerveillait d'un petit lézard sur un petit rocher. Puis, hop, d'un coup, son attention a été attirée par une fleur qu'elle n'avait pas vue avant. Et, tout. Et du coup, ça prenait du temps. Mais en fait, c'était ce chemin-là qui était, en fait, pour moi, le plus beau et le plus intelligent à faire, quoi, que de foncer tête baissée jusqu'à la plage. Et même, je pense que quand on est acteur, il y a cette part d'enfance à quand même à aller convoquer, qui est d'avoir une attention très une disponibilité, quoi, de laisser son regard s'attacher à ce qui nous touche et tout. Enfin, tout ça pour dire que je m'émerveille de l'existence. Ouais. Non, et puis je sais pas. Peut-être j'ai été aussi plutôt un enfant joyeux, qui aime beaucoup rire, mais quand même avec beaucoup de mélancolie, quoi.
Dès l'enfance.
Ouais. Et assez contemplatif aussi, je crois. Et du coup...
Et on vous a laissé faire?
Ouais, ben j'avais pas le choix.
Oui,
non, mais vous voyez, c'est des moments où... je sais pas comment, c'est comment on gère une frustration quand on est enfant. Genre, par exemple, est-ce que je peux sortir aller faire du vélo avec mes copains? Non. Pourquoi? Parce que. Mmh. Ok. Qu'est-ce que je fais? Donc,
Bah déjà, vous cassez pas la baraque, parce qu'il y en a d'autres qui vivent. Ouais, voilà.
Ouais, non, je cassais pas la baraque. J'étais frustré et en colère et j'allais me calmer. Puis finalement, je passais des moments, plutôt contemplatifs, à rien faire, quoi.
La chance. Peut-être parce que vous avez l'art de la joie.
Peut-être.
Troisième choix.
Ah, excellent.
Vous avez décidé de partager un extrait de ce grand texte de Gagliarda Sapienza.
Oui.
Qui est...
Ben, il est outil.
Parce qu'il est tellement gros que normalement, c'est impossible de ne pas le voir.
Modesta.
C'est le nom de sa...
De
son
de l'héroïne, ouais.
Tout à fait. Comment vous découvrez l'art de la joie de Gagliarda Sapienza?
C'était le livre de chevet de mon amoureuse. Et voilà.
Et je l'ai lu. Emboîté le pas.
Oui.
Et ça a marché?
Ouais, bah c'est magnifique. Hein. C'est un texte incroyable qui, à la fois, il est transgressif, il est beau, il est pour le coup ultra spirituel aussi, je trouve. Et c'est assez marrant parce que, enfin, je sais pas, je fais un peu vachement aussi le lien effectivement avec Siddhartha. Il y a un truc, pour le coup, Siddhartha, il doit faire 130 pages. Là, on en a 900. Et je trouve des similitudes. Et puis aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est dans l'histoire de ce bouquin, c'est qu'il a été écrit donc par Gagliarda Sapienza. Elle a, je crois, elle a fini en 76.
Et le bouquin, il a été édité genre...
Très longtemps.
Et oui, et il a été édité en français en 2005. C'est quand même dingue, quoi. Pour dire à quel point il a posé des problèmes, ce bouquin. Mais il est trop beau et il est magnifique.
Vous allez lire un extrait dans la traduction de Nathalie Castagnier.
Donc oui, on est plutôt vers la fin. C'est le chapitre 91. Et puis c'est pas mal parce que c'est vraiment... Enfin, ça peut se lire aussi un peu comme on regarderait une série, quoi.
C'est la vie de Modesta qui est née en 1900.
Ouais, elle est née le 1er janvier 1900. Et juste avant, il y a un dialogue où elle discute avec son fils qui est vraiment génial. Où, enfin, lui, il veut absolument qu'elle se marie avec un mec et tout. Et puis elle a dit non, ça me saoule, j'ai pas envie, quoi. Laisse-moi tranquille. Elle est géniale, cette Modesta. Devant le petit lac. Ah oui, pardon. Mais, et puis ça passe de récit à la première personne.
Ouais.
Et parfois, en fait, elle se parle à elle-même. Donc là, voilà, on est là-dessus, quoi. Alors. Devant le petit lac artificiel qui par prodige a surgi devant elle, Modesta s'arrête et de la main caresse l'eau verte. Mais aucune joie ne naît de ce prodige. Prando tourne les talons et s'éloigne. Tu ne me verras plus, maman. Jamais plus. Se rebeller contre un enfant, cela, elle ne le savait pas. Se rebeller contre un enfant provoque une douleur insoutenable, n'est-ce pas, Modesta? Et pourquoi? Réfléchis bien, Modesta, ne te laisse pas prendre au piège. Si tu y penses bien et ne perds pas la tête, exactement comme sous les bombardements, tu trouveras la réponse. Voilà, assieds-toi sur le petit tabouret doré où ta Béatrice s'asseyait pendant que tu barbotais dans l'eau. Je le mets là, Modesta! Il est joli, si vieux, dans un ensemble moderne, il est original, et puis comme ça, nous pourrons ne pas arrêter de parler. Voilà, assieds-toi sur le tabouret et allume une cigarette. L'eau peut t'attendre. Entre fumée et larmes, Modesta réfléchit. Se rebeller contre un père, on le fait quand on croit être jeune et avoir l'éternité devant soi. Mais se rebeller contre un enfant quand on est peut-être à la moitié du voyage fait surgir des pensées de solitude charnelle qui ont un goût de mort. Et alors que faire? Je suis encore habillé. Je peux courir dehors et l'appeler et ainsi décider de ma propre mort en pleine vie, me rendre prisonnière de mots, d'actions contraires à ma propre pensée. Assister à la démolition systématique de cette pauvre Amalia, confiante, comme toutes les femmes intelligentes, mais novice dans l'art d'être adulte. Assister à la démolition inverse que Carluzzo subit jour après jour. T'es un homme, tu dois démontrer combien t'es viril, Carluzzo, et pas une demi-portion comme ces jeunes d'aujourd'hui. Ils n'ont pas 30 ans déjà, comme toujours, ils se déchaînent contre ceux qui en ont 14 ou 20. Non, Modesta. Accepter une chose pareille est méprisable, plus méprisable que d'être du côté des geôliers là-bas sur l'île. Si t'as résisté sur cet empan de rocher fouetté par le vent à toutes les heures du jour et de la nuit, si t'as résisté, alors tu peux pas maintenant annuler cette action par une reddition totale à Prando, ou à la peur de la mort, ou à la peur de la vieillesse qu'on t'a inculquée pour ne pas mettre de désordre dans la société, pour ne pas ébranler cette forteresse de première ligne qu'a toujours, fascisme ou pas, la famille, école de futurs soldats, mère de soldats, grand-mère régnante.
C'est marrant parce qu'elle a en effet la même dimension, enfin le passage que vous avez choisi, elle a la même dimension spirituelle, de retour sur ce que c'est qu'une existence, de qu'est-ce que c'est que vivre, de qu'est-ce que c'est que regarder telle génération, telle génération, telle génération. Ça donne pas envie de s'embrouiller avec son enfant, je peux vous dire.
Non. Non, ça donne pas envie.
Pourquoi vous avez choisi cet extrait-là, William Labgui?
Ouais, mais parce que déjà, en fait, c'est très très dur de choisir un extrait. Et à la fois, merci à vous.
Pas de problème, avec plaisir. C'est rien pour nous.
Mais non, mais c'est génial, même de se replonger dans des livres qui nous ont vraiment émus, auxquels on pense, parce que ça, c'est des bouquins quand même... L'art de la joie, j'ai eu il y a 10 ans. Et du coup, j'étais là, je revoyais les trucs, je me disais, mais putain, en fait, faudrait que je relise tout le livre, quoi, pour vraiment choisir un extrait et être... J'ai revécu des sensations quand je les ai découvertes. Ouais. Enfin, en fait, là, pourquoi cet extrait? Justement, j'avais corné plein de pages. Du coup, ça m'a rappelé ce qui m'intéressait à l'époque où je les ai lus. C'est marrant, ça. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des pages que je n'aurais pas recornées.
Et peut-être d'autres, en revanche.
Peut-être d'autres.
Ouais. Et en fait, donc il y avait cette similitude avec Siddhartha. Mais au-delà de ça, en fait, là, ça ne donne pas envie de s'embrouiller avec son enfant.
C'est ma remarque, c'est pas tant une question que c'est juste moi ce que ça
oui,
m'a
oui.
fait.
Ouais. Oui, voilà. Non, mais oui, oui. Du coup, il y a effectivement une sorte de petite chose très claire qui me vient à l'esprit, quoi.
Mmh.
Comme quoi, l'inconscient, c'est fort. Hein.
Surtout que dans ce passage, elle rappelle bien que s'embrouiller avec son père, quand on croit avoir l'éternité devant soi, on le fait. Mmh. Mais son enfant, c'est autre chose.
Ouais, c'est autre chose. C'est émouvant, c'est beau.
Ouais. Ouais, c'est vrai.
Voilà.
Pour vous éviter d'avoir à commenter plus avant ce fait, allons vers votre quatrième choix.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais allons vers tranquillement.
Non, je sais pas, ma pudeur me fait rester sur ce seuil.
Mais je pense que ça, c'est
très bien.
Bien. Ouais, c'est
parfait.
Bien.
Parfait. Quatrième choix, la fin des temps.
Oui.
Haruki Murakami.
Tout à fait. Donc un homme japonais.
Un deuxième.
Un deuxième
dans
homme japonais, exactement. Ça, c'est mon premier amour qui me l'a fait lire. Et je me demande s'il n'y a pas...
Un petit mot d'amour.
Et il y a un petit mot d'amour dedans. Donc en fait, c'est deux histoires mêlées. Donc c'est deux hommes. Donc il y en a un, ça se passe dans un monde un peu genre Blade Runner, quoi. Il y a un côté un peu cyberpunk, années 80, machin. Et un peu de science-fiction, enfin, c'est un programmeur qui essaie de programmer avec une puce dans son cerveau. Enfin, c'est assez complexe, mais en vrai, c'est hyper bien. C'est entremêlé avec un autre récit, c'est un peu plus, comment dire, fantastique. Moi, le fantastique, c'est un genre que j'aime énormément. Donc, c'est un homme qui arrive dans une ville, et quand on arrive dans cette ville, on est séparé de son ombre, et il devient liseur de rêves. Et pour ça, donc, on lui perce les yeux. Pour qu'il devienne aveugle, on lui file des lunettes. Ouais, c'est des lunettes fumées. Et il va dans une grande bibliothèque qui est remplie de crânes de licorne dans lesquels il va devoir lire des vieux rêves.
Incroyable.
Voilà. Et il a même fait une petite carte toute mignonne de la ville et tout ça. Et en fait, voilà, quand même, il y a beaucoup de suspense dans ce bouquin. C'est quand même, il y a un côté vraiment thriller, quoi. Donc ça avance assez bien. Et...
Non, j'ai trouvé ça génial, ça avance comme s'il fallait qu'on l'achète, mais tout va bien.
Ouais, mais ouf. Je bosse pas chez Point, hein, les mecs. Je suis pas éditeur, attendez. En tout cas, voilà, non, mais en fait, c'est un... Et puis, il y a un aspect, pareil, ça parle pour moi de l'inconscient vachement et tout, enfin, j'adore.
Dans la traduction française de Corinne Atlan.
Et je peux même, du coup, vous faire un petit jeu... Enfin, c'est pas très compliqué, mais d'essayer de deviner de quel animal il s'agit. Donc, c'est le chapitre 2, qui s'appelle « Les animaux dorés ».
Un qui existe ? Ok.
Le printemps passa, l'été fini, la lumière commença à se charger d'une délicate transparence, et le premier vent d'automne a soulevé les vaguelettes dans les eaux stagnantes de la rivière. C'est à ce moment-là qu'un changement se fit jour chez les bêtes. Des poils dorés apparurent, d'abord clairsemés comme les bourgeons hors saison d'une plante ayant germé par hasard, mais dont bientôt les innombrables tentacules se mirent à étouffer les poils ras, jusqu'à finalement les recouvrir tous d'une éclatante teinte dorée. L'accomplissement de cette cérémonie prit à peine une semaine. La métamorphose commença et se termina pratiquement au même moment pour chaque animal. Au bout d'une semaine, tous sans exception s'étaient mués en animaux dorés. Quand le soleil levant vint teindre à nouveau le monde de son or jaune, l'automne avait saisi la terre dans son emprise. Seule la longue corne qui poussait au milieu de leur front était tout entière d'un blanc délicat. Son extrême finesse évoquait plutôt qu'une corne une pointe d'os qui aurait percé la peau et serait restée fixée à l'endroit de la saillie. Mis à part leur corne immaculée et le bleu de leurs yeux, les bêtes s'étaient complètement métamorphosées en or. Comme pour essayer leur nouveau costume, elles secouèrent la tête de haut en bas à plusieurs reprises, transperçant du bout de leurs cornes le vaste ciel d'automne. Puis baignant leurs sabots dans le courant rafraîchi de la rivière, elles tendirent le cou pour dévorer dans les arbres les rouges baies automnales.
licorne?
Ouais, ouais.
Mais vous avez dit qu'il y avait des anciens crânes de licorne.
Mais ouais, c'est pour ça, j'ai raté.
Il fallait pas me donner cet indice, j'aurais ça aurait été... Bah oui. Sinon j'aurais plus galéré, je pense. J'aurais cherché un vrai animal.
Bah ouais.
Vous savez, est-ce qu'il y avait un haïku que ouais. vous aviez... Je me suis dit que tant qu'on était au Japon, vous voulez lire ça?
Ouais. Alors, c'est un truc que j'adore faire, lire des haïkus et même parfois en écrire.
Ah ouais?
Ouais, c'est hyper agréable. Et donc là, c'est un recueil de haïkus. Hein. Il y en a plusieurs.
De printemps et d'été.
Ouais. Parce que le haïku, en fait, il est... Enfin, il y a des règles. Ouais, c'est très strict. Enfin, faut parler des saisons. Et je crois qu'on peut pas parler de sentiments trop... Enfin, il y a un aspect pudique. Alors, il est de Ozaki Osai. Sur la pointe d'une herbe, devant l'infini du ciel, une fourmi. En fait, ce qui est agréable avec les haïkus, c'est qu'il faut laisser un peu de temps après.
On l'a fait, vous avez ouais. vu. On a tout à fait respecté.
Et ça...
Ça mijote.
Ouais, exactement.
Je dis ça mijote pour dire que vous aviez soumis un texte en rapport avec la cuisine, mais le temps passe et on n'aura pas le temps, je pense.
C'est pas grave.
Non, c'est pas grave. Car le plus important, c'est le chemin qui mène à la plage.
Bravo. C'est adorable.
Ah oui, ah bah alors du coup. Mais ça va?
Ça va aller, je pense.
Parce qu'on a fait la petite pause et tout ça?
Ouais.
Ok, très bien, très bien. Du coup, je me dédie.
Vas-y.
Je me dédie, William Labgill. On a le temps finalement.
Sors de l'haïku.
C'est trop dommage parce que quand même, la plage.
C'était
tombé au bon moment.
Alors dédie-toi.
Je me dédie.
Vas-y, dédie-toi.
Enfin bon. On a beaucoup parlé, on a dit qu'on allait lire un livre. En fait, on a le temps. Et débrouillez-vous avec le montage.
C'est un nouveau chemin qui s'offre à nous.
Et c'est un nouveau chemin. Et donc, on va parler cuisine. Qu'est-ce que c'est que ça?
Alors, ça, c'est...
Le dernier choix.
Ouais, c'est un producteur, il s'appelle Pierre Guyard. Il adore faire à manger et il m'a offert ce bouquin.
Un producteur de cinéma.
Un producteur de cinéma, ouais. Que j'avais rencontré sur Les Combattants de Thomas Caillet. Avec Adèle Haenel et Kevin Azaïs. Et il m'a offert ça, et en fait, c'est hyper bien. Ça, par exemple...
Traité de miamologie.
Ouais, je pourrais vous l'offrir, par exemple.
C'est vrai?
Ouais,
bah, vous a été offert, regardez-le, je vais l'acheter.
Non, mais je vous l'enverrai, quoi.
Ah ouais. Franchement, très chic.
Et en fait, ça parle de qu'est-ce qui se passe quand on met des légumes dans une sauteuse ou dans un faitout, qu'est-ce qui se passe, quoi.
Il faut déjà aimer ça, non, quand même. Il faut déjà aimer cuisiner pour avoir envie de savoir ce qui se passe dans
ouais,
un faitout.
C'est vrai.
En tout cas, dans ce traité de miamologie, vous avez choisi assaisonner.
Oui, tout à fait. Alors, assaisonner. Dieu, le diable et l'aliment. Pourquoi ne mélange-t-on jamais le massis et la citronnelle? Pourquoi la muscade est-elle toujours employée en infusion? Pourquoi le poivre est plus piquant dans une soupe que dans une terrine? Pourquoi certaines épices se marient bien ensemble alors que d'autres se détestent? Dans son roman Ulysse, James Joyce disait « Dieu a fait l'aliment, le diable, l'assaisonnement ». Si Joyce fut l'écrivain qu'on sait, rien ne l'aurait empêché de devenir aussi un cuisinier plein de finesse tant son énoncé parfait résume les faits. Si l'aliment est indispensable, son assaisonnement, lui, est un sortilège, une sorcellerie venue là, gratuite et affranchie de toute nécessité. L'aliment, c'est la vie, l'assaisonnement, le plaisir. Une diablerie essentielle et inutile à la nourriture, comme le sont l'érotisme à la reproduction ou le jardinage à la monoculture. La magie des assaisonnements a suivi une histoire complexe pour en arriver à ce qu'elle est aujourd'hui, et cette partie, somme toute ténébreuse, de l'art culinaire n'est que rarement abordée de front, même si les épices et les aromates bénéficient, eux, d'une littérature abondante. Abondante, mais rarement utile, quand le cordon bleu plein de bonnes intentions doit choisir et réaliser des assaisonnements. Chose curieuse, la cuisine française est économe en assaisonnement, mais les incorpore de manière très diversifiée dans les mets. C'est là aussi que réside son génie. En fait, le charme et la magie des épices et aromates se situent moins dans les ingrédients eux-mêmes que dans les mystères qui jalonnent leur fusion, dans les recettes, grandes ou modestes.
Et c'est quand même vraiment la métaphore culinaire de tout ce qu'on a dit sur la vie.
Ouais.
bim bam boum, on retombe sur nos pattes.
Ouais.
Y a-t-il du sel ou du poivre à ajouter à cette bibliothèque ou on est bon?
Bah, je crois qu'on est pas mal assaisonné là.
Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir ouvert votre bibliothèque pour le Book Club.
Merci à vous.
C'était trop bien.
Ouais, c'était trop chouette, merci.
On fait une petite minute de silence.
Non mais je pensais à une chanson que j'écoutais hier, que ah j'adore de...
Vas-y, dis.
Ah vas-y, on prend.
Qui est... Ah non, c'est pas du tout ça.
Non, c'est pas ça.
Non, c'est pas du
tout
ça.
Ah oui, d'accord. C'est une blague.
C'est absolument pas ça. Une chanson ouais. D'adieu. Il est un peu chelou quand même ce gars.
Non, mais ça fait un petit jeu
d'écran. Allez, au revoir. Peut-être qu'on se reverra. Le chemin est long. Enfin, pas pour tout le monde. Hein.
Merci beaucoup, William Lebguil, d'avoir ouvert votre bibliothèque pour le Book Club.
Merci. À bientôt.
Bonne route.
Merci.
Salut, merci.
Au revoir,
beaucoup.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Merci. À la prise de son pour cet épisode, c'était Michael Simon. Au mixage, Bruno Mourlan. À la réalisation de cet épisode, Vivien de Meyer. Pour retrouver tous les textes évoqués par William Lebguil, rendez-vous sur la page du Book Club franceculture.fr. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club, en particulier à Mathilde Wagman aujourd'hui. Hajimari no asa no shizuka na